Aujourd'hui, nous recevons donc le professeur Alain Schnapp, docteur d'État en histoire, professeur d'archéologie à l'Université de Paris 1 et directeur de l'UFR d'histoire de l'art et de l'archéologie à l'Université de Paris 1. Il a mené de nombreuses fouilles, en particulier dans le monde grec, et il est spécialiste de l'histoire de l'archéologie. Vous pouvez retrouver ses nombreuses publications, en particulier « La conquête du passé aux origines de l'archéologie », publié chez Carré en 1993 et réédité en 1998. Autre ouvrage, « Le chasseur et la cité, chasse et érotique en Grèce ancienne », publié chez Albin Michel en 1996, ainsi que le volume 1 de l'histoire de l'art, période préhistoire et antiquité, paru chez Flammarion en 1997. Je lui laisse la parole. Merci.
Bien, je vais tenter, dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble, de réfléchir avec vous sur le statut de la connaissance du passé. Mais il y a bien des manières de parler du passé, et la part qui m'intéresse est une part matérielle, celle des traces physiques que les hommes, des plus anciens ou plus récents, ont pu laisser dans l'histoire. Je vais tenter de vous expliquer quel est le projet dans les premières minutes de cette conférence, puis je vous inviterai à parcourir avec moi du monde égyptien au XVIIIe, XVIIe siècle avant notre ère, jusqu'à l'Europe des Lumières, cet itinéraire compliqué, différent, parfois bizarre, par lequel les hommes ont redécouvert le passé et se sont posé la question de l'utilité et de la fonction du passé. Nous avons la certitude que le passé est une part de nous-mêmes, une composante si intime et si forte de notre mémoire personnelle et collective qu'une société ou un individu privé de mémoire serait comme mutilé, sans repère. Et pourtant, nous acceptons cette évidence que la mémoire doit faire une part à l'oubli, car à se charger de trop de souvenirs, elle pourrait nous empêcher de vivre. Borges raconte l'histoire de ce jeune homme qui, frappé d'un accident terrible qui le laisse tétraplégique, cherche à se rappeler chaque instant de sa vie. Et ce jeune homme si brillant, dans l'effort incroyable pour se remémorer sa propre vie, en arrive à ne plus vivre. Il n'a plus le temps de boire, de lire, de manger, de communiquer. L'archéologue qui se bat pour conserver quelques traces, souvent dérisoires ou infimes, d'un monument menacé, l'ethnologue qui recueille les survivances d'un rituel, le linguiste qui s'acharne à trouver les derniers locuteurs d'une langue en voie de disparition, savent tous quelque chose de cette difficulté. Ils ont éprouvé à des degrés divers le difficile équilibre que chacun d'entre nous recherche entre souvenir et oubli. Le devoir de mémoire est donc à l'origine de la fondation de nos savoirs modernes. Il a conduit à l'invention de l'histoire et à la pratique de ce que nous appelons l'archéologie, l'étude des vestiges matériels du passé. En conséquence, pas d'homme ancien sans les hommes du présent, les hommes modernes dont nous croyons, sans trop savoir pourquoi, qu'ils sont nos contemporains. Quand nous découvrons que pour certains peuples, les Assyro-Babyloniens, par exemple, le passé s'exprime par une formule qui dit « devant nous » et le futur par une formule qui dit « derrière nous ». Cela nous surprend sans doute et nous inquiète. Tout se passe pourtant comme si nous avions oublié cette remarque de Francis Bacon, le grand philosophe anglais, à l'aube du XVIIe siècle. Je cite « L'opinion que les hommes se font de l'Antiquité est parfaitement impropre et guère adapté au mot lui-même. Le grand âge et la longévité du monde ne doivent être tenus pour vraie antiquité qu'autant qu'on les attribue à notre époque et non à cet âge juvénile du monde qui fut celui des anciens. Cet âge-là, par rapport au nôtre, fut ancien et plus vieux, mais par rapport au monde lui-même, il fut plus ancien et plus jeune. Les hommes d'aujourd'hui, ceux du XVIIe siècle, pour Bacon, sont par définition plus vieux que les hommes des origines. Il est donc inutile de considérer que l'autorité, l'auctoritas, procède de l'Antiquité. Ce sont nos contemporains, héritiers de tous les hommes qui les ont précédés, qui disposent de plus de savoir et d'expérience que les hommes du passé. Pascal reprendra la même idée en la formulant un peu autrement. Ceux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses et formaient l'ensemble des hommes proprement. et comme nous avons joint à leur connaissance l'expérience des siècles qui les ont suivis, c'est en nous que nous pouvons trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres. La mémoire est donc nécessaire à l'humanité, et quand nous pensons aux hommes des origines comme à des anciens, nous ne commettons pas seulement une erreur de perspective, nous oublions qu'eux aussi durent assumer un devoir de mémoire. Si les moyens de remémoration des hommes de la plus lointaine préhistoire nous sont inaccessibles, avec l'invention de l'écriture, en Égypte, en Mésopotamie et en Chine, apparaissent sous des formes diverses une curiosité pour le passé, une volonté d'établir un lien entre passé et présent qui ne laisse aucun doute. L'Antiquité n'est pas une invention moderne. Elle était aussi nécessaire aux souverains des grands empires et à leurs scribes qu'à nous-mêmes. Le premier des documents que je vais vous présenter, la première diapo, s'il vous plaît, ce premier document est la statue d'un personnage qui était le fils de Ramsès II, donc un empereur qui vivait au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, un pharaon. Ramsès II, c'est le Ramsès II si cher à Hergé dans Tintin, si vous avez lu cela, mais c'est aussi un personnage de grandes conséquences pour l'histoire de l'Égypte. Et il avait un fils, et ce fils s'appelle Khamôïs. Et nous trouvons une inscription que vous voyez la suivante, sur chaque partie de la statue. Et cette inscription, je vais vous la lire. Elle est assez difficile à comprendre, elle a été traduite par un de mes collègues. Et voilà ce qu'elle dit. « Par le grand maître des chefs d'atelier, le prêtre Shem, le fils royal Khamôïs, dont le cœur, lacune, à cause de la présente statue du fils royal Khawab, qu'il a saisi alors qu'elle était au rebut, dans le jardin aimé de son père. » Donc voici qu'un personnage qui s'appelle Khamôïs, dont nous savons qu'il est le fils de Ramsès II, nous parle d'un autre personnage, dont il nous dit qu'il est lui aussi le fils d'un pharaon. Et quel pharaon, puisqu'il s'agit de Khéops, le fondateur de la grande pyramide, en 2600 avant Jésus-Christ. Eh bien ce personnage, Khamôïs, a trouvé cette statue que vous voyez, celle de Khawab, et il l'a découverte, il l'a sortie du sol, il lui a rendu un rituel, et je vous dis pourquoi, je vous cite ses paroles. Dans le jardin aimé de son père, le roi de Basse-Égypte, Khéops, il l'a trouvé en bon état, et pour lui donner une place dans la faveur des dieux, en compagnie des esprits excellents qui président au château de Ka, à Rosetaou, c'est la résidence et les Champs-Élysées des morts pour les Égyptiens, tant il aime les nobles ancêtres qui vivaient auparavant et dont toutes les actions furent remarquables, véritablement utiles, 1 million de fois, et que ceci dure sur terre, selon toute vie, stabilité, puissance. Le prêtre Shem, le fils royal, Khamôïs, après qu'il eut rétabli tous les rites de ce temple qui était tombé dans l'oubli de la mémoire des hommes, tandis qu'il faisait creuser un bassin en face d'un sanctuaire vénérable, un travail qu'il avait souhaité lors d'aller et venu pour assainir et apporter de l'eau pour qu'il soit doué de vie. Donc, si vous voulez, c'est la première fouille de sauvetage de l'histoire. Ce personnage, au XIIIe siècle, a trouvé une statue en dégageant un bassin, et cette statue, il a pu en lire la dédicace, établir qu'elle était celle d'un de ses prédécesseurs, 13 siècles auparavant, et pour que personne ne l'oublie, il a fait inscrire cette inscription que vous pouvez encore admirer au musée du Caire. Ce genre de document montre, je dirais, un contrôle social de la mémoire, la nécessité pour un certain nombre de personnages de contrôler le passé pour mieux se présenter dans le présent. D'autres documents nous montrent le souci du passé ou de la collection d'objets du passé sous une autre forme. La suivante, donc c'est la statue, la suivante. Le document que vous avez sous les yeux, c'est un fossile très ancien d'un animal marin, un céphalopode. Et sur ce fossile, il a été trouvé sur un site du XIIe siècle avant Jésus-Christ, en Égypte. Et si vous regardez le document, vous voyez qu'il y a des inscriptions hiéroglyphiques, la suivante. Et ces inscriptions, la voici, elles vous disent que cet objet a été trouvé au sud de la carrière de Sopdois par le prêtre Shem, la même distinction du personnage que le personnage que je citais il y a un instant, qui donne son nom pour signer. Et cette curiosité, pour un objet naturel, très ancien, elle est la relation entre le public et le privé. Dans la grande inscription, vous avez le scribe en fonction, qui obéit aux commandements de l'État et de l'empereur. Dans ce petit objet, vous avez la curiosité personnelle d'un individu qui n'a pas peur de s'exprimer. La suivante. Ce document-ci est encore plus émouvant. Je vais vous en lire une partie, il est fort long. Il a été découvert par un de mes collègues, qui est un orientaliste, Jean-Louis Huot, sur le site de Larsa, en Irak. Et sur ce site, il y a un temple. La ville de Larsa est une ville très importante à l'époque sumérienne, puis assyrienne. Et c'est le lieu de résidence du dernier des souverains indépendants, le successeur de Nabucodonosor, Nabonide, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et en fouillant ce temple, la brique que vous avez sous les yeux a été découverte par mon collègue et traduite par un autre collègue, un épigraphiste, Daniel Arnaud. Et je vous lis sa traduction parce que c'est peut-être le document le plus vif que j'ai jamais trouvé qui exprime la curiosité pour le passé des hommes d'il y a plus de 2600 ans. Je suis Nabonide, roi de Babylone, pasteur, appelé par Marduk, pourvoyeur de l'Ésagile et de l'Ésida. L'Ésagile et l'Ésida sont deux sanctuaires, qui multiplient les offrandes, qui restaurent les métropoles des grands dieux, aux mains pourvoyeuses, qui traitent somptueusement tous les temples, pourvoyeur des sanctuaires, qui magnifie les présents, envoyé inlassable, conquérant des hautes montagnes, berger réfléchi, conducteur du peuple, lui dont le Seigneur des dieux, Marduk, a fermement prononcé le nom pour pourvoir aux métropoles et restaurer les sanctuaires. Donc le roi, c'est celui qui a le contact avec le Dieu, c'est celui qui pense le Dieu et que le Dieu pense. Et dans cette relation du roi au Dieu, il y a la nécessité de préserver et de pourvoir à l'entretien des sanctuaires. Et donc Nabonide raconte sa titulature, si vous voulez. Et puis maintenant, il vous narre une histoire qui lui est advenue alors qu'il tentait, en bon roi, de restaurer un des sanctuaires. Quand le grand seigneur du ciel et de la terre, Shamash, le pasteur des têtes noires, ce sont les Assyriens, le seigneur de l'humanité, dans Larsa, sa ville sainte de résidence, dans les Babars, sa demeure de délection, qui depuis longtemps était un désert et redevenu ruine, sur lesquelles poussières et gravats, en gros tas de pierres, s'étaient entassés, au point que l'implantation n'en était plus reconnaissable et le plan plus visible. Sous le règne de mon prédécesseur, le roi Nabucodonosor, fils de Nabopolassar, on enleva la poussière, tas de terre qui s'était entassée sur la ville et le temple, et l'on découvrit le téménos, c'est-à-dire la zone sacrée, de l'Ebaba, du sanctuaire, d'un ancien roi, Bournabouriash, un prédécesseur, mais on chercha sans le découvrir le téménos d'un roi plus antique. Nabucodonosor refit l'Ebaba sur le téménos de Bournabouriash qu'on y avait vu, pour y faire habiter le grand seigneur Shamash. Donc voilà que Nabucodonosor a trouvé un roi ancien et trouvé l'inscription de ce roi et a été capable de l'identifier. Mais vous allez voir que Nabonide, lui, il va trouver mieux. C'est alors qu'en l'an 10, un jour favorable de mon règne, pendant mon éternelle royauté, qu'aime Shamash. Shamash se souvint de sa demeure ancienne. Il décida joyeusement de la chapelle de la ziggourate d'élever le fait mieux qu'auparavant. Et c'est à moi, le roi Nabonide, son pourvoyeur, qu'il confia le soin de restaurer les Babars et de refaire sa demeure de délection. Sur l'ordre du grand seigneur Marduk, se levèrent les vents aux quatre coins cardinaux, de grandes tempêtes. La poussière qui couvrait ville et temple fut enlevée. On put voir le formidable sanctuaire. Du siège de Shamash et d'Aya, de sa chapelle élevée, de la ziggourate, saint lieu éternel, chambre éternelle, apparut le téménos. Leur plan devint visible. J'y lus l'inscription de l'antique roi Hammurabi qui avait construit pour Shamash, 700 ans avant Bournabouriash, les Babars sur l'antique Téménos, et je compris son sens, j'adorais en tremblant, je m'inquiétais, je pensais. Le sage roi Bournabouriash refit le temple et fit habiter le grand seigneur Shamash. Il me revient à moi de relever ce temple et de le restaurer. Et là, il nous raconte, l'inscription est très longue, trop longue pour que je la lise en entier, qu'il fait venir des spécialistes, qu'il fait restaurer le temple, et ce qu'il fait à la fin des fins, c'est ceci que vous avez l'occasion d'admirer. Ce qu'il n'avait accordé à aucun roi, mon grand seigneur me l'accorda à moi, son dévot. J'y refis les Babars à l'antique pour mes seigneurs, Shamash et Aya, et je le restaurai. Je mis sur une tablette d'albâtre l'inscription de l'antique roi Hammurabi que j'y avais lue avec la mienne, et je la replaçai à jamais. Ce n'est pas cette inscription-là que nous trouvons, vous voyez que elle n'est pas en albâtre, donc elle devait être exposée ailleurs, mais c'est vraiment la brique de fondation. Donc, les Assyro-Babyloniens ont le souci du temps, mais pour avoir le souci du temps, ils ont le savoir du temps. Ils sont capables de placer Bournabouriach, qui est un roi qui régnait 7 siècles, nous le savons par les archives assyriennes, avant notre Nabonide au VIe siècle, ils sont capables de placer le roi Hammurabi, qui vivait encore plus d'une dizaine de siècles auparavant. Donc, il y a dans cette curiosité assyro-babylonienne quelque chose qui dépasse un peu notre idée du rapport au temps. J'entends par là qu'on ne peut rendre un culte aux dieux, on ne peut être un souverain respectueux des autres qu'en regardant d'abord la série des rois qui vous ont précédé. Et c'est pourquoi le passé est devant nous. Vous n'êtes roi que dans la contemplation de l'infinie légitimité des souverains qui étaient là avant vous et dont vous pensez que vous êtes le digne successeur. Cette idée, elle s'exprime dans toute la culture assyro-babylonienne et nous la voyons dans un certain nombre de documents que je vais vous présenter assez rapidement. Ces documents sont en général des tablettes inscrites, comme celle-ci qui est au musée de Pennsylvanie, qui vient d'Assyrie, et dans laquelle vous avez une impression sumérienne, donc de la fin du 3e millénaire, et puis une traduction en cunéiforme qui vous explique où cette inscription a été relevée. Et ce genre de document, nous en avons énormément. La suite, vous voyez des inscriptions sumériennes, en grand caractère, et puis le commentaire en disant « je l'ai trouvé ici, c'est la titulature d'un certain personnage qui s'appelle Pouchour-Artou, nous verrons qui c'est. » La suivante. Dans le palais de Babylone, le palais assyrien de Babylone, le fouilleur allemand, Eberhard Hunger, a découvert dans les années 30 deux cellules. La suivante. Et dans ces cellules, il a trouvé plus de 75 statues inscriptions qui remontaient pour les unes à la fin du 3e millénaire et pour les plus récentes à la période d'abandon du sanctuaire ou de la pièce au 6e siècle. Il a appelé ça le musée. Je ne sais pas si ce que nous appelons aujourd'hui un musée peut être comparé à ce que les Assyro-Babyloniens jugeaient nécessaire pour établir, je dirais, la continuité de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient dans cette espèce de reposoir et de sanctuaire, des statues qui n'étaient pas seulement celles de leurs dieux ou de leurs hommes politiques ou de leurs rois, mais les statues des zones et des villes qu'ils avaient conquises, comme ce gouverneur de Marie que vous avez là, donc la ville phénicienne de Marie, la suivante, comme ce gouverneur aussi qui s'appelle Pouchour-Ishtar, comme le personnage dont nous avions entendu parler dans l'inscription que je vous présentais tout à l'heure. La suivante. Les Égyptiens, les Assyro-Babyloniens, il manque un troisième empire, et c'est l'Empire chinois. Je n'ai pas l'occasion de vous en parler aujourd'hui parce que la documentation chinoise est tellement extraordinaire qu'il me faudrait beaucoup de temps pour la vous présenter. Mais je vous donne le plan de la capitale royale de Xi'an. Vous avez le tumulus de Xi'an, et vous voyez ces fosses ici, ce sont les fosses dans lesquelles ont été découvertes ces extraordinaires statues qui sont peut-être une des plus belles découvertes de l'archéologie des 20 dernières années. Eh bien, nous savons ce Shi Huangdi, le premier fédérateur de la Chine, celui qu'on appelle le premier empereur, qui se fait appeler le premier empereur, il est inhumé sous cet énorme tumulus. Et nous le savons parce qu'un historien du IIe siècle nous a raconté comment il avait été inhumé. Il nous a raconté qu'on avait construit systématiquement des armées enterrées qui étaient mises à la périphérie pour garder symboliquement le grand tumulus, et que dans le tumulus, on avait reconstitué une maquette de toute la Chine, avec ses fleuves, avec ses régions, avec ses villes. Et que le jour où le roi était mort, on avait fait entrer le roi, sa suite et les architectes, et qu'on avait fait tout s'effondrer pour que cela soit, en quelque sorte, caché à jamais. Et ce que font les archéologues chinois maintenant, c'est de travailler à la périphérie, mais ils n'ont jamais osé, jusqu'à présent, tenter de fouiller ce tumulus qui est vraiment le monument à la mémoire de l'Empire chinois. Alors ça, ce que je viens de vous montrer maintenant, c'est un ensemble de documents qui vous montrent comment, dans les civilisations orientales, dans ces empires dirigés par des rois-prêtres, le passé est un enjeu. Et que cet enjeu, il est organisé, systématisé, par ces groupes de savants qui travaillent pour les rois, et qu'on appelle les scribes, dans des pays qui ont des écritures si complexes qu'il faut des dizaines d'années pour les maîtriser. Dans notre tradition, dans la tradition occidentale, grecque, il en va autrement. Les Grecs avaient bien connu des cités palatiales au 3e millénaire, au 2e millénaire, mais quand au 8e siècle naît la cité grecque, quand elle se développe avec la mathématique et la philosophie au 7e et 6e siècle, tout cela n'était plus que souvenir. Et les Grecs, quand ils vont visiter l'Égypte, comme Hérodote, ils disent « Jamais nous n'atteindrons à la civilisation des Égyptiens. Eux, ils sont là depuis 10 000 ans. Nous, notre histoire grecque, elle est pauvre. La guerre de Troie, ça ne va pas bien loin. » Mais les Grecs ont une chose. Ils ont inventé un autre mode de transmission. Ils n'ont pas été les seuls. Les Mélanésiens et bien d'autres, les Polynésiens, ont développé aussi cela, qui est la mémoire orale. Et ils ont cette idée que la poésie, c'est peut-être la meilleure des défenses de la mémoire. Pas besoin de construire des pyramides, pas besoin d'élever des ziggourats. Simplement ce poème écrit par Pindare, la sixième pythique, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà ce que dit le poème. Écoutez, nous laborons le chant d'Aphrodite aux vives prunelles, nous laborons le chant des grâces en marchant vers le temple qui contient le nombril de la terre au sourd grondement. Là, pour les Héménides fortunées, pour Agrigente, sise auprès de son fleuve, pour Xénocrate, enfin, s'élève dans l'opulente vallée d'Apollon le trésor des hymnes qu'ils ont mérités par leur victoire pythique. Donc c'est un hymne à un personnage, à une famille, dont un représentant a gagné à Delphes. Et voilà ce qu'est. Vous savez, quand vous avez remporté une victoire en Grèce, qu'est-ce que vous faites? Vous construisez ce que les archéologues appellent un trésor, un thésauros, c'est-à-dire une petite façade, un petit temple, qui va être décoré de la manière la plus belle possible. Si vous êtes allé à Delphes ou si vous regardez la documentation sur Delphes, vous verrez ce que c'est à Olympie aussi. Eh bien, ce que Pindare dit, c'est que lui va faire mieux que les architectes, il va faire mieux que les sculpteurs. Mon thésauros hymnon, mon trésor des hymnes, dit-il, il est tel que sur lui peuvent fondre avec furie les pluies d'hiver, milices impitoyables des nuées au sourd grondement, et les vents peuvent venir le battre avec elles, de tous les débris confus qu'ils emportent, sans l'entraîner jusqu'aux abîmes de la mer. Sa façade, illuminée d'une lumière pure, proclamera et fera redire par les hommes aux Thrasybules l'illustre victoire commune à ton père et à sa race, remportée à la course des quadriges dans les vallons de Crisa. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des hommes pour apprendre ces poésies, tant qu'il y aura des hommes pour les répéter et se les répéter les uns aux autres, il y a un autre poème de Pindare qui le dit très bien, eh bien, la mémoire gagnera sur l'oubli. Et la mémoire, c'est cette capacité de remémoration. La remémoration, c'est la remémoration verbale, la remémoration mnémonique de ceux qui apprennent les poèmes. Mais c'est aussi la remémoration de ceux qui inventent une nouvelle stratégie d'écriture que nous appelons l'écriture alphabétique et qui va permettre aux Grecs, à partir du 6e, 5e siècle, d'inventer, dans l'ordre de toutes les disciplines qui font le corps des savoirs humains, cette discipline qu'ils appelleront l'historia, l'historié dans le dialecte ionien, parce que c'est d'Ionie, de la côte turque actuelle, que viennent ces premières découvertes. Et l'historié, nous dit Hérodote, c'est l'enquête menée par un homme qui dit
Je prends mes responsabilités. J'ai vu, j'ai écouté, j'ai rencontré, j'ai lu, j'ai copié. Ces scribes que vous voyez s'exprimer chez les Assyro-Babyloniens et chez les Égyptiens ou les Chinois, au détour d'une lettre officielle ou en ramassant un petit objet sur lequel ils disaient « C'est moi qui l'ai ramassé, j'ai mis mon nom », ces scribes s'émancipent. L'émancipation des savants, l'émancipation des curieux, l'autonomisation de l'enquête, c'est la naissance de l'histoire. Et rappelez-vous que dans l'histoire que pratiquent les Grecs, il y a quelque chose que les Assyro-Babyloniens, les Chinois et les Égyptiens n'avaient jamais imaginé, c'est que, dit Hérodote, j'écris pour la mémoire des Grecs et pour la mémoire des barbares, c'est-à-dire pour la mémoire des autres. J'écris pour toute la terre habitée. Et c'est cette idée d'universalité que la Grèce a donné à travers la culture gréco-romaine au monde. De ces traces-là, nous n'avons que peu de témoignages archéologiques, parce que bien sûr, les Grecs ne construisaient pas sanctuaires comme ceux dont je viens de parler. Ils n'inscrivaient pas dans le sol, ils inscrivaient sur leur façade peut-être, mais la mémoire de leur roi. Il n'y avait d'ailleurs pas de roi au sens assyro-babylonien du terme. Mais ils ont créé des livres, ils ont écrit des livres d'histoire, et ces livres, vous pouvez encore les lire dans les traductions modernes, c'est-à-dire que 2000 ans de tradition ont permis, par les moyens de l'écriture alphabétique, d'en conserver la trace. Comment les sociétés du passé se sont-elles positionnées par rapport à la part matérielle du passé qui reste dans le sol? Comment ont-ils considéré, je dirais, la mémoire présente? C'est ce que nous allons voir en regardant quelques documents médiévaux. Alors, le premier de ces documents, c'est un évangéliaire du IXe siècle sur lequel vous voyez l'alpha et l'oméga. Et vous reconnaissez cet alpha et cet oméga, et bien sûr. Eh bien, les trois croix et ce personnage qui gratte le sol, c'est ce personnage qui va chercher le tombeau du Christ. La suivante. Cette idée chrétienne de la redécouverte du Christ, elle nous est donnée par une tradition byzantine qui nous apprend que la mère de l'empereur Constantin, que vous voyez ici, dans une miniature médiévale tardive du XVe siècle, la voilà, la dame, a fait le voyage de Palestine pour découvrir la tombe du Christ. Elle l'a trouvée, nous dit le texte, parce qu'elle a trouvé le titulum, c'est-à-dire l'inscription qui disait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Évidemment, c'est ce que nous appelons un apocryphe. Il est peut-être que la mère de Constantin s'est rendue en Palestine, mais elle n'a pas fouillé la tombe du Christ. Mais cette idée qui crée le mythe, qui crée l'idée de la relation entre le présent et le passé, et quelle relation peut être plus forte que celle que de découvrir des reliques, ben c'est tout l'imaginaire médiéval qui l'exprime. Les suivantes, c'est celle des chrétiens excavant la montagne au XIe, XIIe siècle, la suivante. C'est celle de cet évêque en train de fouiller la tombe d'un saint et dont vous voyez qu'il expose le calvarium et toutes les parties anatomiques sur le maître-autel de l'Église, dans une espèce de vision, je dirais, chirurgicale du passé. Il n'y a d'Église que de reliques. Et il faut donc aller les chercher, les reliques. La suivante. Et c'est aussi cette mythologie médiévale qui va faire une place très grande à la tradition des géants. Et voilà Merlin, donc dans une geste médiévale. Et Merlin, qu'est-ce qu'il construit? Il construit cet énorme bâtiment, et vous reconnaissez peut-être dans ce bâtiment le plus célèbre bâtiment proto-historique de l'Europe, Stonehenge, au sud de l'Angleterre, le suivant. Un bâtiment qui était bien connu des chroniques médiévales, où il est présenté ici, dans un texte du XIIe siècle. Il a une forme rectangulaire, alors que vous savez que c'est un cercle, mais il y a déjà cette vision du sol qui est marquée par les géants, par la quête de Dieu, mais qui est marquée, qui est inscrit le passé dans le présent. La suivante. Cette enluminure du XIVe siècle, c'est un des documents les plus extraordinaires que je connaisse, parce que vous voyez, c'est Excalibur, et c'est le roi Arthur qui pleure, tout sanguinolent, et Excalibur va disparaître, et voici Lancelot. Eh bien, Excalibur, elle avait été donnée, l'épée, elle avait été donnée par Richard à Tancred de Sicile, et Richard avait prétendu avoir découvert l'épée Excalibur dans la tombe du roi Arthur, dans l'abbaye de Glastonbury. Donc il y a toute une élaboration, je dirais, d'une histoire qui s'intègre au sol, qui vient chercher dans le sol les éléments de sa conviction. La suivante. Le passage de la mentalité médiévale à la mentalité de la Renaissance, il passe à travers une réflexion sur l'origine des êtres, à travers des traités aristotéliciens sur l'origine du monde. Voici une gravure de Barthélemy de Glanville, un moine du XIIe siècle, qui a résumé en latin Aristote et qui vous explique la naissance des êtres. Vous voyez un sanglier, vous voyez des chevaux, des quadrupèdes divers qui sortent du sol. Puis vous voyez aussi la naissance des êtres, c'est la naissance des statues et la naissance des vases qui sortent spontanément du sol. La suivante, cela correspond, voilà une autre version du manuel. Vous aviez là un incunable, une impression. Ici, vous avez un manuscrit hollandais du début du XVIe siècle dans lequel, vous voyez, les vases sortent du sol de façon presque aussi spontanée que les animaux. Et cette idée qu'il faut comprendre que le vivant et la matière ont un acte de naissance, c'est l'origine de la curiosité métaphysique sur le passé qui exprime une partie du rapport des hommes du Moyen-Âge avec l'Antiquité, avec le passé. La suivante. Cela s'exprime par exemple dans des enluminures du XVe siècle à Augsbourg, où vous voyez la fondation de la ville d'Augsbourg sur la Weser, qui est représentée comme un bourg tardo-romain. Et puis ici, et le texte le dit, voilà les hommes des cavernes qui vivaient dans des grottes, qui pratiquaient la chasse, construisaient des cabanes. La suivante, la même image, un siècle plus tard, dans une impression. Et vous voyez là, à nouveau, la même mythologie, la construction de la ville romaine d'Augsbourg, puis de l'autre côté du pont sur la Weser, cette femme qui allait avec ses enfants nus, les dépouilles de la chasse, enfin toute une idée primitiviste. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la fin du Moyen-Âge, on récupère la littérature classique, et que donc on va lire Lucrèce, on va lire les philosophes de Lyonie, et on va reconstituer un schéma du monde qui va être beaucoup plus évolutionniste que ce que l'on avait auparavant. La suivante. Cette évolution, elle apparaît par exemple dans les compositions de Piero di Cosimo sur les origines du monde. Et vous voyez, ça c'est la découverte de la chasse, et c'est les hommes qui apprennent des centaures ce qu'est la chasse. Ce n'est pas une anatomie de l'histoire, ce n'est pas une histoire naturelle, c'est une histoire symbolique de la découverte de l'humanité à travers des thèmes mythologiques, l'origine du feu, l'origine de la construction, l'origine de la chasse, les premiers inventeurs. La suivante. C'est le même moment où les Italiens vont explorer le bassin oriental de la Méditerranée, où Cyriac d'Ancône, au XVe siècle de notre ère, dessine pour la première fois le Parthénon, ou relève des statues comme celle d'Aristote, qui est figurée ici. La suivante. C'est un moment, celui de la Renaissance italienne, où cette idée s'impose. Elle est exprimée dans ce Dita Mondo de Fazio degli Uberti au XVe siècle. C'est Rome. Vous voyez Rome, le Colisée, vous voyez le Château Saint-Ange, vous voyez les fortifications. Vous voyez les hommes d'aujourd'hui, les hommes du Moyen-Âge, bien habillés, qui regardent Rome. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient cette Rome à la fois magnifique et dépouillée, spoliée, les spolia, et cette vieille femme, comme une mendiante, c'est la Rome de l'Antiquité. Et la tâche des papes, la tâche de la Rome chrétienne, va être de la ressusciter. Et pour ressusciter la Rome du XVe siècle, il faut chercher à comprendre la Rome des empereurs, la Rome ancienne. La suivante. Et cela passe justement par une interprétation archéologique où sur le Tibre, on va placer systématiquement chacun des monuments. C'est un des plus anciens plans de Rome dont nous disposions. C'est ce moment, au XVe siècle, où on relie les anciens et les auteurs à la main, on va regarder le forum, on va regarder les antiquités de la ville, et on se dit, mais est-ce qu'on peut comprendre tout cela? Est-ce qu'il y a une ville ancienne? Comment est-elle organisée? La suivante, c'est l'Apollon du Belvédère et toutes les découvertes qui vont orner les palais des cardinaux, la suivante, le jardin des statues avec cette poésie du passé que les plus grands esprits de la Renaissance, Raphaël lui-même, vont exalter. Rappelez-vous que Raphaël va être le premier antiquaire du pape et qu'il va définir l'architecture moderne comme la continuation de l'architecture ancienne. La suivante, c'est ce qui s'exprime dans cette image extraordinaire qui illustre un traité de Paracelse, qui est celui de l'érosion. Cela renvoie à ce que je disais dans mon introduction. Voilà le chemin. Ça, c'est le chemin de l'univers ou le chemin de la vie des hommes, comme vous voudrez. Puis ça, c'est le temps. Et le temps souffle. Et de la vie des hommes, il ne restera rien. les livres, tout est destiné à la disparition. Mais ce qui restera peut-être, c'est justement devant vous, cette espèce de surface verticale qui est la stratigraphie dans laquelle, au fil du temps, les couches vont se déposer. La suivante. Le goût des hommes de la Renaissance pour le passé s'exprime dans la transformation d'une institution qui est la collection. Voici l'Arc de Triomphe imaginaire que Maximilien de Habsbourg, l'empereur du Saint-Empire, au début du XVIe siècle, s'était fait construire par les plus grands graveurs de l'époque. Il avait fait une gravure parce qu'il n'avait pas les moyens de construire une véritable porte. Et dans cette porte, il y a tout, la suivante, il y a tous les effets du roi, tous les effets symboliques de l'exercice de la couronne, et parmi ces effets, eh bien, il y a celui-là, « Den großen Schatz hat er allem von Silbergold und Edelstein, von Perlen, Gut und Köstlich. » Et donc il nous raconte qu'il a fait, il a constitué la chambre du trésor royal. Et cette chambre du trésor royal, vous voyez qu'elle est pleine d'objets ecclésiastiques, elle est pleine d'argent, d'or, de coffres précieux. Elle n'a pas encore une dimension antiquaire. La suivante. Quelques années plus tard, en 1520, 1530, par la grâce de la Réforme, un évêque suédois doit laisser son siège d'Uppsala. Et cet évêque s'appelle Olus Magnus, Olus le Grand. Et comme il n'a plus rien à faire à Rome, il s'ennuie de son siège épiscopal d'Uppsala, il écrit une histoire d'ego. Et dans cette histoire d'ego, il va commencer par ramasser toutes les antiquités de la Suède. Et il écrit en caractère runique cette dédicace, il faut respecter les antiquités. La suivante. Et cette idée, elle l'entraîne à dessiner, à faire dessiner, à décrire toutes les traditions du contexte scandinave, mais à relever des documents, à la dessiner et à écrire pour qu'on lui envoie d'autres documents attestant du passé. En gros, c'est à Rome, sur le modèle romain, que va se constituer l'idée qu'on peut faire l'histoire, y compris des zones dans lesquelles il n'y a pas de couvent, dans lesquelles il n'y a pas de tradition écrite, en regardant le sol. La suivante. Et cette histoire, elle s'impose par ce genre de collection. C'est un vase de Terra Nigra, un vase germano-romain, gallo-romain, qui a été trouvé en 1563 près d'Hambourg. Alors, ce vase, il n'a rien que de normal, mais vous voyez qu'il est décoré d'une décoration d'argent, et que là, vous avez une petite statue romaine et deux monnaies romaines. C'est-à-dire qu'on associe les objets de l'antiquité locale aux objets de l'antiquité gréco-romaine. Et c'est cet effort qui est l'effort des gens de la Renaissance et de l'âge de raison. La suivante. C'est cet effort qui s'exprime alors dans les premiers cabinets de curiosité italiens, où à la différence de la cave au trésor de l'empereur Maximilien, en 1599 à Naples, eh bien vous avez le premier musée de chambre des merveilles réalisé par un noble italien qui s'appelait Ferrante Imperato. Il fait visiter son musée dans lequel vous avez des objets naturels, vous avez des livres et vous avez aussi des livres sont ici et aussi un certain nombre d'antiquités. La suivante. Cette mode des musées va se développer particulièrement en Italie. Voici le musée de Ferdinando Cospi qui démontre des artificialia au naturalia, c'est-à-dire des objets de la nature aux objets créés par l'homme, l'ensemble des objets que l'on peut mettre dans un petit espace pour symboliser la totalité du monde. La suivante, c'est l'idée du muséum que vous retrouvez chez l'un des plus grands antiquaires scandinaves du milieu du XVIIe siècle, Olaus Worm, où vous voyez là, par exemple, la panoplie d'un lapon. Vous avez des tortues, vous avez l'ours polaire, vous avez des... Et puis là, vous avez des objets archéologiques. La suivante. Ça touche aussi la France, dans la personne d'un conseiller au Parlement, qui s'appelle Pétot, et qui est ce monsieur Pétot qui a le sens de l'humour, écrit en frontispice de son musée, imprimé, « Non nisi prisca Pétot ». Je ne veux rien qui ne soit antique. Il joue sur son mot. Puis il fait des tas de mots... pas tout, mais tout de suite, par exemple. En grec, en latin, etc. La suivante. Et donc voilà la qui nova vult abeat, celui qui veut des choses nouvelles, qui s'en aille. Je ne suis pas pour la modernité, je suis pour l'antiquité. La suivante, non nisi prisca peto. Et vous trouvez cette chose extraordinaire, on est en 1612, voilà cet homme qui nous donne une série de monnaies grecques, de petits vases romains, d'objets qui ont été déposés dans une tombe, mais il nous donne les squelettes en connexion. C'est la première image, je dirais, de quelqu'un qui a compris que les objets présents dans le sol, ce ne sont pas des objets qui ont été perdus seulement. C'est des objets qui peuvent dire quelque chose parce qu'ils ont été disposés dans le sol pour signifier. Se relever, si vous voulez, c'est le premier regard d'un antiquaire sur la signification de ce qu'il a trouvé. La suivante. Cette signification, elle s'exprime aussi dans les relevés des mégalithes. On ne sait pas ce que sont les mégalithes, on ne sait pas les dater. C'est une antiquité, il y a un anglais tellement éloigné qu'on n'y verra jamais clair. C'est le brouillard des origines. Mais par contre, on sait les traiter anatomiquement dans un relevé. Vous voyez, on leur donne un numéro, on les dessine, la suivante. On les relève. Voilà le plus grand traité de géographie moderne paru en 1600 à Cologne, qui est dû à un Hollandais et un Allemand. Braun et Offenberg. Et vous voyez là, la pierre levée de Poitiers. Donc, la pierre levée, c'est la fameuse mégalithe que Rabelais décrit dans son Pantagruel. Et ce mégalithe, il est relevé de façon très précise par ces topographes qui inscrivent d'ailleurs les noms. Et là, vous avez le bottin intellectuel de tous les grands. Vous avez notamment Georg Hofnagel, l'inventeur de la géographie moderne, de tous les grands topographes du début du XVIIe siècle entre la Hollande, l'Angleterre et la France. La suivante. Puis voilà une carte, toujours de la même époque. Vous voyez, 1600, c'est vraiment la date où tout bascule, où on ne s'intéresse plus seulement aux Grecs et aux Romains, mais où vraiment les objets d'une antiquité très éloignée, les mégalithes, trouvent une place dans des cartes géographiques. Voici une carte du Württemberg. La suivante. Et toujours en 1600, le frontispice de la Britannia de Guillaume Camden. Alors, je m'excuse, la photo est médiocre, mais peut-être voyez-vous ce qui, moi, je trouve la chose la plus intéressante pour un historien de l'archéologie et d'un historien du passé, c'est ces deux hommes avec des pelles qui fouillent un calvarium, donc une tête humaine, et puis de grands os longs, et on vous dit locus, ubi ossa, humana, et effodiuntur. Là, on a trouvé des os humains. C'est la première, en 1600, image d'un archéologue au travail, d'un antiquaire qui dégage des objets que j'ai pu trouver. La suivante. En 1578, un gouverneur de Holstein fait relever ce site, qui est le site éponyme sur lequel les rois du Danemark, au IXe siècle, se sont fait enterrer. Et il y a une pierre runique, avec un décor et une inscription. Et ce personnage, qui est un zélateur de la réforme et un élève de Melanchthon, le fait relever, dessiner. Inscription du monument de Gormon, dont c'est le roi, dans une petite pierre et de son épouse Tirée, qui ont été posées sur ce site. Il a fait relever le monument, relever les pierres runiques, il donne leur transcription en caractère latin et leur traduction en latin. Mais cette idée du passé, elle n'a de sens que si le passé sert à penser. À penser quoi ? À penser le présent. La suivante. Et il y a ce document qui, à mon avis, est un des documents les plus extraordinaires du temps, qui est une pyramide que ce seigneur Rantzau, ce gouverneur de Holstein, a fait ériger dans sa propriété en mémoire de cette découverte des premiers rois du Danemark. Et il joue, donc, si vous lisez le latin qui est là, il vous dit « Je l'ai fait élever en mémoire de cette découverte pour garder leurs souvenirs. » Donc c'est le principe assyro-babylonien. Mais ce qui n'est pas assyro-babylonien ou égyptien, c'est ça. C'est Anno a Principium Mundi, 5540, donc l'année de la création du monde par Dieu. L'année du déluge, 3484. L'année de la naissance du Christ, 1578. Mais là, c'est là la révolution. L'année de la naissance de Mahomet, 985. C'est-à-dire que pour la première fois en pays protestant, un antiquaire vous dit que le comptage des années du monde la place qu'il occupe dans le monde, elle n'est pas seulement comptée dans le vieux système de la géographie judéo-chrétienne, mais qu'elle doit s'ouvrir aussi à l'égire musulmane. Et ça, c'est une espèce de coupure intellectuelle, d'ouverture de l'histoire locale à l'histoire universelle à travers l'observation du sol. La suivante. C'est un processus qui est facilité par le développement de la géologie. Voilà que, pour le comte du grand-duc de Toscane, au milieu du XVIIe siècle, un Danois encore explique la fabrication stratigraphique, voyez, ça c'est les phénomènes d'érosion, et la fabrication stratigraphique des couches du grand-duché de Toscane. Et cette idée des couches du sol qui peuvent apporter, donner un sens au monde, vous la retrouvez, la suivante, dans une série de fouilles effectuées dans le courant du XVIIe siècle et à la fin du XVIIe siècle par des antiquaires français ou scandinaves, dont le fameux Olaus Rudbeck. Et vous voyez, si on vous dit, comme on dit dans tous les manuels d'archéologie, la méthode stratigraphique a été inventée vers 1850, eh bien, regardez ce document, et si ce n'est pas une fouille stratigraphique, eh bien, je veux bien rendre mon tablier. Nous sommes en 1670 environ. La suivante. Voilà une coupe stratigraphique, comme n'importe quel archéologue contemporain la ferait, c'est-à-dire une coupe qui vous montre la position des couches et des objets dans les couches. La suivante. En France, au même moment, on fouille le fameux dolmen de Cocherelle. Et on trouve la découverte tellement extraordinaire qu'on fait venir un notaire et un peintre pour relever et décrire. Et nous avons le rapport notarié qui nous explique comment cette découverte fortuite a été opérée et qui se pose la question, mais qui sont ces hommes? Alors certains disent, oh, bah, c'est les Anglais des guerres de religion. Et d'autres me disent, vous êtes complètement idiots, c'est pas possible que ce soit des Anglais des guerres de religion. Ces gens ne connaissaient même pas le fer. La suivante. Eh bien, cela va nous amener, si vous voulez, à l'aube du XVIIIe siècle. Nous sommes en 1700 sur ce document et nous sommes en 1713 sur cet autre document. Ce document-là, il est dû à Francesco Bianchini, astronome et antiquaire du Vatican. Il illustre la historia universale provata con monumenti e figurata con simboli. Degli antichi. L'histoire universelle prouvée et avec des monuments et figurée avec des symboles, avec les symboles des anciens. Et vous voyez l'apôtre qui est là, l'alpha et l'oméga, la fontaine de vie, les quatre continents, les blancs, les noirs, les indiens, la synagogue voilée qui est couronnée par ce légionnaire qui renverse les signe des religions égyptiennes ou des codex égyptiens et qui la couronne du chrisme latin. Donc ça, c'est la vision de l'histoire, la succession des empires, l'Église de Rome comme porteuse, si vous voulez, de l'achèvement de la connaissance. Et donc les antiquaires du pape sont les premiers antiquaires d'Europe parce qu'ils sont les héritiers de la Renaissance et à travers elle, de la culture gréco-romaine. Puis de l'autre côté, voilà un document qui illustre un livre publié en 1714 en Allemagne par un prêtre catholique, lui aussi, G.H. Nunning, qui s'appelle « Sepulcretum Gentile », les sépultures des païens. Et vous voyez que le motif est le même. Vous avez le temps, memento mori, n'est-ce pas, avec Sappho. Et puis, vous voyez le temps qui passe. Et vous voyez l'histoire. L'histoire écrit. Et elle écrit sur un grand livre. Ce grand livre, il est dans une atmosphère antiquaire, n'est-ce pas? Vous avez ces colonnes corinthiennes. Puis vous avez Mercure, qui désigne les pages du livre à l'histoire. Et puis vous avez un petit amour qui joue là, et qui joue sur ce petit meuble que vous ne reconnaissez sans doute pas, qui est le meuble typique des cabinets d'antiquaires, des collectionneurs de monnaie. C'est les meubles, vous pouvez les admirer encore à la Bibliothèque nationale si vous y allez. Et donc tout ça, c'est la vision, si vous voulez, antiquaire et non moins religieuse du programme de Bianchini. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce que vous avez là, vous avez un autre petit amour, un petit puto qui joue avec des monnaies romaines, ça c'est clair, mais il joue avec des vases proto-historiques et même avec des silex, des pierres taillées et avec des armes de bronze. Donc ce que vous avez entre ces deux documents qui ont 10 années de distance, c'est d'une part l'histoire des empires et les, je dirais, l'histoire lue à travers la relation de l'Orient et de l'Occident et de son achèvement dans la Rome papale. Et de l'autre, vous avez un autre document qui fait une place, petite encore, discrète encore, mais fondamentale, à ce passé qui, jusqu'à présent, était négligé, qui était le passé que nous avons sous nos pieds, le passé qui n'est présent dans aucune des grandes chroniques et qui est le passé des antiquaires régionaux, le passé d'une nouvelle forme de connaissance. C'est le moment, quelques années plus tard, où Jacob Spon, un médecin lyonnais, va inventer le terme que nous appelons, que nous utilisons aujourd'hui, archéologia. Il le reprend du grec, c'est un vieux mot grec, mais il l'utilise en latin. Il dit « Moi, je suis un zélateur de l'archéologia. Je ne suis pas un antiquaire, celui qui collectionne. Je suis un de ceux qui cherchent à comprendre. » L'archéologie moderne est l'héritière des Lumières, mais elle doit aux États nationaux du XIXe siècle la création d'une législation et des outils qui permettent de préserver ce qui peut l'être des vestiges des passés. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le défi du prochain siècle, cependant, est de transformer cet héritage en un cadre plus apte à respecter et promouvoir les valeurs universelles de la recherche du passé. Les Assyro-Babyloniens avaient raison, le passé est devant nous. Je vous remercie.
Bien, des micros vont passer dans la salle. Si vous voulez poser des questions, est-ce que vous pourriez lever la main afin qu'on vous les fasse parvenir ? Il y a une question ici.
Merci, professeur, pour ce que vous nous avez appris. Il me faudra un peu de temps pour que je mette les choses à l'envers, c'est-à-dire le passé sera le présent. C'est juste pour rire. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu que vous avez montré un tumulus chinois qui avait été enterré avec le roi, avait été enterré avec toute sa cour. Or, dans l'archéologie, je suppose que vous avez envie de savoir ce qu'il y a là-dedans. Et j'étais tout à fait choquée un jour de voir que les Kanaks empêchaient que l'on touche leurs morts. Parce qu'ils disaient qu'on avait le respect de rien, sous prétexte de vouloir connaître la formation de l'homme. On avait enterré les hommes, on ne respectait pas le fait qu'en les sortant de terre, on nuisait à leur éternité. Je pense aussi aux momies. On disait pendant très longtemps qu'il y avait une malédiction à toucher les momies, en dehors peut-être de cette chose qui n'est pas vraie. Que pensez-vous que l'homme se permet d'aller toucher aussi profondément l'être humain sous prétexte de connaissance ?
Alors, on est là devant un des problèmes classiques de la science moderne. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, il était sacrilège qu'un médecin puisse utiliser des corps humains pour enseigner et que dans les grandes universités du XVIe siècle, les cabinets de dissection étaient montés sur des espèces de roulettes qui permettaient de les cacher si des inspecteurs venaient les découvrir. Si vous allez à Padoue, vous verrez comment on peut cacher la table, le cabinet d'anatomie. Donc la question que vous posez, c'est celle du respect dû à l'autre et du respect. La mémoire, c'est du respect, mais la mémoire, ça peut être de l'agression. Quand vous allez détruire le passé des autres, vous vous mettez en situation d'agression. Et il y a quelques années, nous avons eu notre grand congrès annuel de tous les archéologues du monde. Vous imaginez ça, c'est assez absolument affreux. Vous allez dans une ville, il y a 10 000 archéologues, il y a de quoi en faire vraiment un cafard absolument incroyable. Eh bien, il y avait 10 000 archéologues à Delhi, en Inde. Et vous savez qu'en Inde, il y a un problème terrible, confessionnel, entre le nationalisme indien de la religion hindouiste et puis l'islam. Eh bien, les archéologues, moi je n'y étais pas, mais plusieurs de mes collègues m'ont raconté que à cause d'une des mosquées très importantes du nord de l'Inde, une dispute, je dirais, politico-religieuse a surgi entre les gens qui contestaient ce lieu, et on a fait brûler cette mosquée très ancienne. Et que les gens aient fait brûler une mosquée au motif qu'ils voulaient restaurer un temple hindouiste, c'est déjà en soi un problème. Mais ce qui est bien pire, c'est qu'on a vu des archéologues en venir aux mains, les uns disant « ils ont raison », les autres disant « ils ont tort ». C'est-à-dire que quand nous touchons au passé, nous touchons à des valeurs symboliques. Ces valeurs, vous signaliez les Kanaks, je pourrais vous y dire les Indiens d'Amérique, je pourrais vous dire un nombre de populations absolument divers, pour lesquelles il y a une sacralité des restes humains et qui interdit qu'on les extrait du sol ou, et, par exemple, dans la législation australienne, le respect des traditions des populations locales, dans la nouvelle législation qui passe en ce moment dans les États du Sud et en Californie des États-Unis, eh bien, il est dit que si une population peut démontrer que des objets enfouis dans le sol appartenaient à ses ancêtres, alors elle peut interdire qu'on les fouille. Et c'est un problème. On peut comprendre la nécessité de respect. Il peut être choquant si vous allez au musée de l'homme. Vous pouvez encore voir des choses qui sont choquantes dans la façon de traiter les corps morts d'hommes qui nous ont précédés. Donc, chaque époque, chaque compartiment de la science cherche à trouver un équilibre entre le respect dû aux autres et la nécessité de la connaissance. Je n'ai pas de réponse toute faite à vous apporter, sauf à vous dire que, évidemment, si l'on interdit toute exploration, on se place un peu dans le camp des gens qui étaient contre Galilée. Mais qu'en même temps, si, fort de notre niveau technologique, de nos moyens, on arrive, on écarte les populations et on dit « laissez-moi fouiller, je vais sortir tout ce qui me passe par la tête ou qui m'intéresse », on n'est certainement pas, à mon avis, dans son bon droit.
Allô ? Allô ? Je suis là ?
Oui, ah bon, allez-y, là-haut.
Où est-ce que s'en est les manuscrits de la Mer Morte ? Est-ce que tout a été traduit et publié ou
Non, les manuscrits de la Mer Morte ne sont pas complètement traduits. D'abord, une partie d'entre eux ont disparu au cours des découvertes. Vous savez que c'est un enjeu symbolique très important, que c'est un enjeu entre les nations, c'est un enjeu entre les religions aussi. Hein. Il y a des corpus qui sont dans des mains protestantes, d'autres dans des mains catholiques, d'autres dans des mains juives, et il y a comme une compétition des religions du livre. L'islam est un peu en dehors du débat, mais vous avez pu voir quelques magnifiques séries d'émissions récentes à la télévision sur le dossier. Les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts de façon assez fortuite dans une grotte. Ils ont été extraits de cette grotte sans qu'on respecte les précautions classiques que n'importe quelle opération archéologique réclamerait, et donc ils ont échappé, si vous voulez, à un regard distancié qui aurait mis ces manuscrits, qui sont patrimoine commun de l'humanité, à la disposition de tout le monde. Donc, parce qu'ils sont les manuscrits de la Mer Morte, parce que le Qumran pose des questions terribles, extrêmement compliquées sur la naissance du judaïsme, enfin, sur le développement du judaïsme et la naissance du christianisme, peut-être, elles sont toujours un objet d'un débat, et un théologien protestant n'en parlera pas comme un théologien catholique.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Vous avez disposé de 50 minutes pour parler. Moi, je vais disposer simplement de quelques secondes. Et j'espère respecter ce temps. Vous avez dit que le passé n'a de sens que s'il sert le présent. Et je suis d'accord avec vous. Et j'espère aujourd'hui, et à 6 secondes près, servir justement le présent. Vous étiez capable de parler des fils de Pharaon, mais si je vous pose la question et je vous demande, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les fils de Noé ? Il y a 3, il y a un fils dont fait notre lignée, c'est-à-dire la lignée d'Abraham. Je ne vais pas attendre la réponse parce que moi je connais et il est important. Il est important de connaître ses origines, et ça fait partie de l'équilibre humain, parce que sans savoir ses origines, on va vers la démence. Alors, vous avez aussi parlé de l'islam. Je me rappelle, une fois, le pape est allé au Liban, il avait dit « Alléluia », et il a dit à la foule « Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire « Alléluia » ?» Bien entendu, il ne va pas avoir la réponse. Mais il a expliqué par la suite qu'Alléluia veut dire la grande joie, la joie. Et moi, ici, je suis présent, je dis que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est la grande joie. Ça veut dire Allah, ilaha illallah, pas de divinité sauf Allah. Et donc, l'islam n'a pas commencé avec Mohammed. L'islam, il a commencé avec Abraham. C'est Abraham qui a donné la ligne islamique. Et donc, je vous demande de réfléchir sur cette question parce que vraiment, c'est un scoop pour le monde.
Merci. D'autres questions ? D'autres questions, s'il vous plaît, si vous pouviez lever la main. Ici.
Bonsoir. De votre brillant exposé, j'ai retenu beaucoup de choses très intéressantes, notamment le devoir de mémoire qui nous permet aujourd'hui de tirer des leçons de l'expérience des siècles, comme vous l'avez dit, et des hommes de nos origines. Dans toutes les contrées du monde, on cultive naturellement le passé, mais de façon différente. En effet, dans les civilisations orientales, on a tendance à glorifier surtout le passé, alors que dans les civilisations occidentales, on s'en inspire bien sûr, mais on n'hésite pas à le critiquer. On se demande donc si la transmission de la mémoire collective n'est pas sélective en fonction des buts à atteindre ou des convictions des régimes en place, d'où la fragilité de l'autonomie du chercheur historien pour construire le schéma du monde. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Oui. Alors, la construction de la mémoire, c'est à la fois inconscient et inconscient. Quand un souverain commande une inscription, c'est pour sa gloire et c'est conscient. Mais il restera des traces de ce souverain autre. Il pourrait même rester des traces des défaites de ce personnage. Regardez dans l'histoire de France, le premier événement qu'on vous apprend à l'école, eh bien, c'est une défaite. C'est la défaite d'Alésia et c'est Vercingétorix. Alors les Allemands, eux, ils commencent leur histoire avec une victoire. La victoire d'Arminius contre les légions de Varus dans la forêt de Teutoburg. Et c'est une autre manière de construire son histoire. Alors vous avez parfaitement raison de dire qu'aucun d'entre nous n'est indépendant de conditions d'exercice du savoir historique, de préjugés qu'il peut avoir sans en être conscient, et des documents qu'on met à sa disposition. Mais la merveille de la pratique historique et de la pratique archéologique, c'est que nous pouvons recouper. C'est-à-dire que ce que les gens n'ont pas voulu nous dire, nous pouvons le savoir par d'autres moyens. Nous pouvons interroger les pollens, nous pouvons interroger les arbres, nous pouvons interroger même le cœur de la matière avec le carbone 14. Et donc il y a cette espèce de lampe d'Aladin extraordinaire que sont, je dirais, les techniques croisées. Il n'y a pas, en histoire comme en archéologie, il n'y a jamais un document. Un document unique, comme un témoin unique, cela ne vaut rien, ou très peu. Ce qui vaut, c'est plusieurs documents croisés. Et quand on est passé et repassé dans ce croisement, quand on a confronté les chronologies dues à la tradition avec les chronologies inscrites dans le sol, qu'on les a confrontées à nouveau avec ce que nous savons des déplacements de population, avec les changements de technologie, avec les changements même qui affectent, je dirais, la superficie du sol et la gestion de la nature, eh bien, on peut peut-être commencer à écrire des histoires plus précise, plus savante. Mais de la même manière, peut-être, que certaines formes de l'histoire du XIVe siècle ou du avant ou après vous ont fait sourire, de même peut-être que notre histoire savante d'aujourd'hui fera sourire les historiens du XXIe siècle.
D'autres questions, s'il vous plaît ?
Oui, excusez-moi, tout à l'heure, je voulais poursuivre dans ce que je vous avais dit, ce que vous avez dit, mais il y avait beaucoup de monde. Voilà, j'ai appris quelque chose d'absolument épouvantable hier. C'est que quelles sont les règles qui régissent dans les excavations ? C'est-à-dire que je crois que jusqu'à un certain temps, on allait dans les pays, on faisait des recherches et on avait le droit de ramener chez soi ce qu'on en avait trouvé au point de vue pierre, au point de vue objet. Or, vous savez qu'il y a eu un moment donné, lorsque Mélina Mercouri est devenue le premier ministre grec, elle a demandé à ce que la France restitue les objets, les statues, la Vénus de Milo, la Victor Symmetra surtout, et aussi que le British Museum rende également tout ce qui avait été pris, disait-elle, qui n'était pas juste. Or, j'ai appris hier qu'il a été déposé un recours devant la Cour de l'Europe. depuis plusieurs années. Et évidemment, on met beaucoup de temps. Je pense qu'on est en train de chercher comment on va répondre à cette question. Mais il est entendu que la Grèce continue à demander à ce qu'on rende ce qu'elle pense qu'on a pris sans autorisation. Quelle est la loi? Que se passe-t-il? Est-ce que vraiment on pouvait jusqu'à un certain moment, par exemple, Napoléon a été en Égypte, il a ramené un tas de choses, etc. Il a aussi détourné, paraît-il, certaines choses des Anglais, dans la pierre de Rosette, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, quels sont maintenant les règlements qui font que nous sommes en tort ou nous ne le sommes pas, ou il y a une loi qui change les choses?
Bien, en principe, la plupart des pays disposent d'une loi sur le patrimoine historique. Et le patrimoine archéologique en fait partie. Dans aucun pays, vous ne pouvez aller à la Bibliothèque nationale, prendre un livre et puis repartir chez vous en disant « il est à moi ». Si on faisait ça, non. Parce qu'il m'intéresse que je sais le lire et que vous ne savez pas le lire. C'est souvent ce que les archéologues de certains pays ont dit vis-à-vis d'autres. Quand on vient nous réclamer la victoire de Samothrace, on peut se poser la question de savoir si elle devrait aller en Grèce ou si elle devrait aller en Turquie. Parce que le problème est de savoir où elle a été trouvée. Et qu'est-ce que ça veut dire culturellement? Donc, les lois sur l'archéologie, elles sont nées très tard. Elles naissent dans le monde scandinave, peut-être parce que c'est les pays qui ont le moins de sources écrites, qui protègent les premiers leurs sources écrites. Donc, au XVIe siècle, il y a une loi suédoise pour la protection des antiquités. Puis, il va falloir beaucoup de temps pour qu'elle se diffuse ailleurs. Les Grecs la feront passer dès l'indépendance de la Grèce, parce qu'ils ont eu le sentiment, pas injustifié, vous pouvez l'imaginer, qu'au temps du mandat turc, enfin, du gouvernorat turc sur la Grèce, eh bien, justement, les grandes puissances européennes venaient en Grèce et librement, comme le fameux Lord Elgin, démantelaient le Parthénon. Mais rappelez-vous ce que Byron disait d'Elgin. Hein, il l'a traité le plus grand saligo de l'histoire. Hein, donc, c'est le plus grand poète anglais de l'époque qui avait traité ce personnage, qui avait certains mérites, mais qui n'avait pas hésité à faire sauter les marbres du Parthénon de la pire espèce que ce soit. Il y avait une guerre franco-anglaise à l'époque, et chacun, le consul de France qui faisait des fouilles à l'époque en Grèce, avait été arrêté à la demande d'Elgin. Donc, l'archéologie, enfin, le passé, il n'échappe pas à l'histoire. Quand vous avez des guerres, vous avez des spoliations, vous avez des pillages. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est une question très difficile. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'abord que les États nationaux aujourd'hui refusent à quiconque, sauf quelques très rares États, d'exporter quelque antiquité que ce soit. On peut fouiller, on peut sortir, on peut étudier, on peut présenter dans des expositions, mais on ne peut pas retirer à un pays, sans son aval, des objets qui ont été trouvés dans son sol. Quant à savoir ce qu'il faut faire pour les objets qui ont bougé dans les siècles des siècles, c'est une question évidemment sans fin. Vous citiez Napoléon, rappelez-vous que Napoléon n'a pas fait que l'expédition d'Égypte, mais il a organisé un Louvre. Vous aviez l'exposition Vivant de Nom il y a quelques mois au Louvre. Ceux d'entre vous qui l'ont visité ont pu voir qu'il avait systématiquement, au nom de la victoire des armées françaises, organisé le pillage systématique de toutes les grandes galeries d'art de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne. Et nous avons encore à la Bibliothèque nationale les manuscrits du plus grand archéologue du XVIIIe siècle, Winckelmann, qui ont été volés par les armées de Napoléon. Donc, je veux dire, chaque pays pourrait balayer devant sa porte. Et c'est vrai que les pays qui sont arrivés le plus tard dans le concert des nations ont été les plus spoliés. Mais si vous me demandez mon sentiment sur la restitution des marbres Elgin, je vous dirais que je suis partagé, que je n'ai pas vraiment de philosophie sur la question. La loi, mais madame, vous avez deux. La loi, c'est la loi anglaise ou la loi grecque? La loi turque ou la loi internationale? Non, il y a un recours devant un tribunal européen, parce qu'on peut penser que dans la logique actuelle, les tribunaux européens peuvent subsumer les lois nationales. Mais vous n'êtes pas du tout sûr que ce recours va aboutir. Il aboutirait-il qu'il ne serait pas exécutoire? Donc la loi, c'est une construction. Et donc, cette construction est plus ou moins tolérée, acceptée par les sociétés qui la pratiquent. Mais en tout cas, si votre question est-ce que les archéologues, dans leur ensemble, considèrent que la restitution des marbres Elgin est justifiée, je dirais... Il y en a, c'est 50-50. Il y a des raisons, bon, il y a des pour, il y a des contre. Il y a pas plus je pense que là-dessus, les archéologues n'ont pas plus de sens commun ou de bon sens que la majorité des populations. Et donc, ça restera une question ouverte. Je n'exclus pas qu'un jour, beaucoup de mes amis anglais sont persuadés que les marbres d'Elgin reviendront à Athènes. Et à ce moment-là, le Louvre devra faire un bon mouvement.
Bonjour. Je voulais savoir quel est le projet des archéologues actuels. Je veux dire, vous avez parlé de congrès tout à l'heure. De quoi parle ? Est-ce qu'il y a des grands projets d'ensemble ? Est-ce qu'il y a des grands sujets actuels qui font qu'on voit une vision d'ensemble de l'archéologie ou pas ? Chacun cherche de son coin ?
Non, il y a des tendances par les disciplines, il y a des tendances par pays, par aire culturelle. Ce serait un exposé en soi, mais brièvement, si vous voulez, on pourrait dire deux choses très simples sur l'archéologie. D'abord, que c'est devenu une discipline universelle. Vous avez pu voir dans mon exposé qu'au début, les gens où cherchent ce qui est propre, ce qui est leur, le roi, le prêtre, le magistrat, celui qui est éponyme, comme on dit, qui fait date, qui fait nom. Puis ils s'aperçoivent que le silex qui n'a pas de nom, il est intéressant aussi. Donc l'archéologie, elle est devenue universelle. On peut faire de l'archéologie de l'Australie, on peut faire de l'archéologie presque au pôle Nord, partout où il y a eu des hommes, il y a des traces. Et si on a de la chance et si on est attentif, on peut les trouver. Donc cette universalisation, elle fait qu'il y a aussi une mondialisation de l'archéologie. Quand moi j'étais étudiant, il y a une trentaine d'années, on travaillait de façon très différente en Angleterre, en Allemagne, en France et aux États-Unis. Maintenant, au bout du compte, tout le monde s'est approprié à peu près les mêmes techniques de dégagement, d'excavation, de restauration. Les archéologues sont confrontés à deux défis, si vous voulez. Le premier, c'est de rester universel, au moment où, de toutes parts, des nationalismes pas très différents de ceux qu'on a connus dans le passé s'expriment. Les gens disent « je suis là, j'ai le droit d'y rester parce que j'y étais avant vous ». Qu'est-ce que ça veut dire « avant vous » à l'échelle de 1 million d'années ou 3 millions d'années ? Les gens se battent pour un bout de désert ou se battent... Bon. Je néglige pas, je ne veux pas réduire cela, leur débat à cela, mais c'est un des problèmes. Donc, les archéologues doivent éviter, en tout cas, d'alimenter ce genre de délire nationaliste. Ils doivent apprendre, l'idée de l'archéologie universelle, c'est d'apprendre aux hommes la relativité de nos civilisations et la relativité des échanges. Personne n'a de droit sur quelque chose sauf sur soi-même, je dirais. Donc, c'est cette règle, je dirais, éthique, qui est à la base d'une archéologie moderne. Et la seconde, c'est que comme nous avons maintenant de la physique, de la chimie, des stratégies, nous avons des satellites qui nous photographient la Terre au centimètre carré, on peut découvrir des choses qui étaient invisibles il y a 25 ans. Quand moi j'étais étudiant, on apprenait que l'homme le plus ancien avait 600 000 ans. Aujourd'hui, on dit 3 millions. Certains de mes collègues disent 4. J'ai entendu ce matin d'autres dire même 5. Peut-être que dans 20 ans, on sera à 7 millions, 7 millions et demi d'années pour ce que nous appelons les premiers hommes. Alors c'est ça, les frontières, c'est l'hominisation, c'est la sédentarisation, c'est l'origine d'un certain nombre de grands complexes de civilisations dans le croissant fertile, aux Amériques, etc. Il y a de multiples champs et je crois que dans la diversité, il y a suffisamment de travail encore à faire pour les générations, pour que l'archéologie reste vivante. Le seul problème, c'est qu'il faut que les sociétés acceptent que l'archéologie, elle réclame des moyens, elle réclame un peu d'attention. Et qu'on ne fasse pas, comme on l'a trop fait, partout, dans les pays en voie de développement, mais comme dans cette pauvre ville de Paris, de faire passer des bulldozers sans laisser les quelques années nécessaires aux archéologues pour regarder ce qui se passait dans le sol. Ce sol qu'on redécouvre à l'occasion des travaux qui ont eu lieu ici même. Rappelez-vous l'extraordinaire nécropole mérovingienne que nos jeunes collègues ont découvert à quelques centimètres, quelques mètres de l'endroit où vous êtes.
Je vous remercie.